La CNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la CNASIM vous parle, l'émission de la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. Je suis évidemment avec Jean-Yves Frappin, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Je rappelle que vous êtes cofondateur et secrétaire général de la CNASIM et vous êtes également président du collège UNIS des agents commerciaux en immobilier.
Dernièrement, oui.
Comment allez-vous? Avez-vous passé de bonnes fêtes déjà de
oui,
fin d'année?
Oui, ça s'est très bien passé, je vous remercie. Et vous?
Très bien, très très bien. En pleine forme, ravi de vous retrouver. Et nous ne sommes pas seuls pour cette émission, puisque nous avons deux invités. Alors à ma droite, Maître Jean-Marie Moise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste en droit immobilier et en droit fiscal. Et vous êtes également auteur de l'Agent immobilier 21e édition chez Dalloz et Delmas. Et puis à votre droite, Claude-Olivier Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formateur dans l'immobilier, conseil, vous faites du conseil et de l'audit et vous êtes également auteur d'une dizaine d'ouvrages professionnels, notamment sur le management. Et puis vous êtes aussi professionnel de l'immobilier. Beaucoup de cordes à votre arc en tout cas. Messieurs, c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver. On va parler dans cette émission d'un thème bien précis. Nous allons parler de la responsabilité des agents commerciaux dans leur activité. Alors, Maître, je m'adresse en premier à vous. Qu'est-ce que la responsabilité des agents commerciaux déjà, pour commencer brièvement une petite définition dans leur activité?
Alors,
qu'est-ce que ça veut dire?
On va déjà situer les agents commerciaux parce qu'il s'agit de savoir de quoi l'on parle. Les agents commerciaux sont nés tout simplement de la volonté des agents immobiliers dans les années 80 d'avoir des collaborateurs, négociateurs immobiliers qui ne soient pas soumis à un statut qui est un statut du Code du travail, c'est-à-dire le statut salarié. En effet, nos agents immobiliers à l'époque ont pensé que le fait pour un agent commercial ou pour un négociateur indépendant d'exercer une activité leur coûtait beaucoup moins cher que de l'avoir comme salarié de l'entreprise et soumis à des conventions collectives qui les obligent à verser des minimums garantis chaque mois et à payer des charges sur les, on va appeler les rétrocession d'honoraires, puisque ça ne s'appelle plus des commissions, sur les rétrocessions d'honoraires qu'ils leur versent. 1980-1982, les premiers obstacles que l'on a rencontrés à l'époque venaient des caisses primaires de sécurité sociale qui considéraient que le statut indépendant n'était pas conciliable avec les activités qui étaient réellement développées par ces négociateurs. En effet, le plus souvent, ils travaillaient à l'entreprise, à des horaires fixes, sur les instructions du patron, donc du titulaire de la carte professionnelle, et n'exerçaient pas leur activité en indépendance, mais dans le cadre d'un lien de subordination. Donc, il y a eu des requalifications qui sont intervenues. Une guerre avec les URSSAF qui a duré une dizaine d'années, et jusqu'à ce que deux arrêts de la Cour de cassation en 2004 considèrent que l'activité de négociateur indépendant était inconciliable avec l'activité développée par un négociateur immobilier, tout simplement parce que la plupart des négociateurs immobiliers adoptaient le statut d'agent commercial pour l'exercice de leurs activités. La Cour de cassation a disposé que ce statut n'était pas applicable dans le cadre d'une activité pour le compte d'un professionnel, activité réglementée par de l'ordre public, c'est-à-dire une loi du 2 janvier 70, un décret du 20 juillet 72, qui sont d'ordre public et qui sont inconciliables avec le statut d'agent commercial qui, par définition, est indépendant. Les organisations syndicales sont intervenues, sont montées au créneau au niveau du ministère de la Justice et du ministère de l'Industrie, et on a modifié les textes. Et un article 4 de la loi du 2 janvier 70 a été pondu dans les années 2000, 2005, c'est ça.
2006.
2006, la réforme.
Au début 2005.
Et cette réforme considère que les agents et les agents commerciaux, ou du moins les négociateurs indépendants, non salariés, ont obligatoirement le statut d'agent commercial. Et on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi ? Parce que pour les négociateurs salariés, les limitations de pouvoir sont fixées par un document qui est délivré par la Chambre de commerce et visé par le titulaire de la carte professionnelle. Ce document, cette attestation qu'on appelait attestation d'emploi, ce qui n'est pas, ce qui ne correspond pas à l'agent commercial à proprement parler, puisqu'on ne peut parler, on ne parle pas d'emploi, mais de mandat. Mmh. En tout cas, cette attestation de pouvoir délivrée n'a pas de limite en ce qui concerne les salariés. C'est-à-dire qu'on peut leur permettre de négocier, on peut leur permettre d'établir des actes sous seing privé, on peut même leur permettre de pratiquer des maniements de fonds. Mais, en ce qui concerne les agents commerciaux, avec la réforme résultant de l'article 4 de la loi du 2 janvier 70 et l'article 9 du décret du 20 juillet 72, nos agents commerciaux sont des négociateurs, j'allais dire, qui sont castrés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent, en tout et pour tout, que recevoir des mandats pour le compte du titulaire de la carte professionnelle. Ils ne peuvent pas avoir d'autres activités. Je rappelle tout de même aussi que la Cour de cassation en 2011-2012, dans plusieurs arrêts, a disposé qu'un agent commercial ne peut pas avoir d'activité pour son propre compte et qu'il ne peut recevoir de mandat que du titulaire de la carte professionnelle. Bien. Alors, voici un agent commercial dépourvu de tout pouvoir sauf recueillir des mandats qui va être envoyé par des sociétés que j'appellerais éventuellement, c'est pas des multicartes, mais multi-agents commerciaux, qui, situés dans le nord de la France, vont envoyer des agents commerciaux sous le couvert de leur carte professionnelle, travailler à Nice, à Toulouse, à des centaines de kilomètres du siège du titulaire de la carte. Bien évidemment, le souci, c'est de faire du profit et de multiplier les agents commerciaux en leur laissant une marge d'honoraires importante de l'ordre de 70% à peu près, et récupérer à côté les 20% qui sont multipliés par le nombre d'agents commerciaux qui travaillent sur les différents secteurs. Donc c'est très profitable. Et comme les agents immobiliers ne sont pas idiots, ils ont monté de véritables structures d'entreprise pour déléguer leur carte professionnelle, dont ils sont titulaires, et envoyer sur le terrain des agents commerciaux qui ne sont pas surveillés, à proprement parler.
Oui, parce qu'il n'y a personne derrière eux qui les
aide. Il n'y a personne derrière eux pour surveiller ce qu'ils font. Et puis, on les a recrutés en leur disant « Devenez négociateurs indépendants. Exercez une activité indépendante pour votre compte. » Ce qui est complètement faux, au sens de la réglementation.
Au sens de la loi.
Bien sûr. Mm. Bon. C'est pas du tout une activité indépendante. Mm. Bien. Alors, en fonction de cette situation, il vient d'arriver devant le tribunal judiciaire de Paris, et c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, une décision fort surprenante. Fort surprenante, pourquoi ? Parce que un client, on va dire d'un agent commercial, mais l'agent commercial par définition...
Il ne peut pas avoir de client.
Il n'a pas de client. Ouais. Les clients sont les clients du titulaire de la carte
professionnelle. Donc de l'agent immobilier.
Il a traité les clients de l'agent immobilier qui se plaignent du fait que ni le notaire, ni l'architecte à qui ils se sont adressés, ni l'agent commercial ne les ont éclairés sur les limites d'utilisation d'un bien qu'ils ont acquis. En l'espèce, ils voulaient installer, c'est pas très réjouissant, un un centre funéraire dans un secteur qui, dans le plan d'occupation des sols, ne pouvait pas retenir cette activité.
D'accord.
Donc, ils ont dit, nous avons subi un préjudice, il faut nous indemniser puisque nous avons acheté un bien qui n'est pas adapté
à l'utilisation,
à l'activité,
en fait.
Et l'activité, nous l'avions donnée.
D'accord.
Alors, tenez-vous bien, ce qui est très curieux, c'est que, suite à cette assignation, le titulaire de la carte professionnelle va reprocher à son agent commercial de ne pas avoir donné au client les informations qu'il était tenu de lui donner en ce qui concerne la nature du bien et les possibilités d'utilisation de ce bien. Et il lui dit, eh bien, moi, je ne suis pas responsable, c'est vous qui avez négocié l'opération, vous devez me garantir si des condamnations venaient à être prononcées à mon encontre, puisqu'il avait été aussi assigné, vous devez me garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à mon encontre et à la requête des clients.
Et est-ce que c'était le rôle, du coup, de l'agent commercial ?
Eh bien, tenez-vous bien, je continue. Si vous vous en tenez à la décision qui a été rendue, on va condamner l'agent commercial à garantir le titulaire de la carte professionnelle. On le condamne à le garantir tout simplement parce que il n'a pas commis un acte positif, une faute positive, mais un acte négatif, à savoir qu'il n'a pas fourni les informations qu'il n'a pas le droit, de par la loi, de donner, puisque la loi lui interdit d'établir des actes sous seing privé, la loi lui interdit d'établir et de donner des conseils, hein, ou de recueillir des fonds.
Donc il n'a pas le droit de donner des conseils,
Ça lui est interdit.
De recueillir des fonds ?
Non, rien, il ne peut rien faire autre que de recueillir des mandats. C'est précisé. Alors, le tribunal rentre en voie de condamnation, alors que, curieusement, la compagnie d'assurance de cet agent commercial ne va pas soulever le fait qu'il ne peut pas, par omission, avoir commis une faute en ne donnant pas les conseils, car ces conseils lui sont interdits par la loi. Et personne ne le plaide, personne ne développe ses arguments, et il est condamné. Bon, c'est un jugement que j'ai qualifié, non pas de jugement, mais d'erreur juridique. Bon, c'est pas envisageable un instant qu'un agent commercial puisse être condamné pour défaut dans un devoir de conseil qu'il ne peut pas donner et qu'il n'a pas le droit de donner. Bon. En réalité, en ce qui concerne le titulaire de la carte professionnelle, c'est lui qui est responsable, car c'est un pousse au crime, il envoie dans la nature des agents commerciaux sans aucune surveillance, il leur fait donner des conseils qu'il ne devrait pas donner en disant « vous êtes indépendant », et lorsque on reproche l'absence de conseils, au lieu de s'adresser au titulaire de la carte, ce qui est naturel, eh bien, voici le titulaire de la carte qui, paradoxalement, va demander la garantie de son agent commercial pour des actes qu'il n'a pas le droit d'effectuer. Alors, c'est la situation juridique dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Nul doute que la jurisprudence va évoluer.
J'espère.
Et qu'en rappelant les pouvoirs de l'agent commercial qui sont très limités, des condamnations de ce type ne peuvent pas normalement se rencontrer. Le seul responsable, c'est le titulaire de la carte professionnelle qui a poussé au crime son agent commercial dans cette opération. Et comment peut-il, alors que c'est par sa faute, éventuellement, que l'agent commercial, ou par sa défaillance, que l'agent commercial est recherché, demander sa garantie. Voilà.
Alors, Jean-Yves Frappin, vous vouliez réagir.
Ce qui veut dire que les appellations qu'on trouve souvent sur les cartes de visite ou qu'on annonce sur les réseaux sociaux de conseiller immobilier, c'est contraire à la loi, car l'agent commercial est un négociateur indépendant. inscrit au registre spécial des agents commerciaux, c'est exactement son titre, et en aucun cas on doit l'intituler conseiller, consultant, auditeur, expert immobilier,
directeur etc. d'agence,
ou voire même directeur d'agence.
Que c'est formellement interdit.
Malheureusement, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, sur les cartes de visite, même dans les appellations aussi. Et voilà. Donc c'est extrêmement dangereux pour l'agent commercial de s'appeler de ce nom-là, parce qu'il est en dehors de... Et qui plus est, dans l'affaire que vous citez, celui qui a délivré les cartes de visite, c'est le mandant, c'est donc l'agent immobilier, sur lequel, en fin de compte, il le délivre en tant que conseiller immobilier.
Oui, parce que...
Donc, en cours d'appel, il aurait gagné.
J'imagine que l'agent commercial va faire appel.
Il y a...
Non. C'est trop tard.
La compagnie d'assurance... mal conseillé. La compagnie d'assurance mal conseillée n'a pas interjeté appel. Et comme la condamnation avait été partagée à trois têtes entre le titulaire de la carte professionnelle, le notaire...
L'architecte.
Et l'architecte en était sorti. Mais il y en avait encore un autre qui avait été condamné. Le notaire, oui. Mmh. Eh bien, c'était une condamnation à trois têtes. Agent commercial, notaire et agent immobilier. Ils ont dit... on va payer 11 000 euros, puisqu'il y avait 34 000 euros de dommages et intérêts, et la compagnie d'assurance n'a pas interjeté appel, à tort, car il y avait une question fondamentale qui n'a pas été posée dans ce dossier.
C'est bien dommage que vous n'ayez pas représenté, en tout cas, cet agent commercial, maître.
Moi, ou un autre de mes confrères, dûment informé de ce statut. Bon. C'est un peu une spécialité, certaine.
Tout à fait.
Mais je ne suis pas le seul à pouvoir assurer la défense des agents commerciaux.
Claude-Olivier Bonnet, vous vouliez réagir
Oui, j'aurais bien aimé un tout petit peu intervenir pour la partie structurelle. Jean-Marie évoque la castration d'un agent commercial. Je serais un peu moins sévère. La loi UNL de 2006, en fait, prévoit une mission. Et elle est limitée dans son champ. C'est ce qu'on appelle la castration. Mais le détenteur de la carte T habilite un commercial, qui est un agent commercial. Quand il l'habilite, c'est à lui de mettre à disposition de son agent commercial la formation, l'information et de contrôler ce qu'il va faire. C'est vrai que la distance peut être un problème, sauf à, bien sûr, et dans des grandes structures, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a 80 000 agents commerciaux sur le territoire, on se rend bien compte qu'il va falloir structurer des choses. Il y a peut-être des lois à prendre, ne serait-ce que déjà sur la formation initiale obligatoire, mais ensuite sur le contrôle des agents commerciaux. À un moment donné, on parlait de distance, est-ce qu'on pourrait, par exemple, animer un agent commercial à plus de 80 km, à 100 km, etc.
Donc la loi doit évoluer.
Voilà, certainement avec des intermédiaires.
Attendez. Monsieur Bonnet, je ne sais pas quels sont vos rapports avec les entreprises qui utilisent ces agents commerciaux à distance, mais je dois vous rappeler un principe. Ils ne peuvent que recueillir des mandats.
C'est exactement
quelle formation voulez-vous leur donner alors qu'ils ne peuvent pas donner de conseils.
Jean-Marie.
Ils ne peuvent pas établir d'actes sous seing privé.
Jean-Marie,
attendez,
j'ai pas fini, Jean-Marie.
Ils n'ont aucun pouvoir à l'heure actuelle.
Jean-Marie,
il n'y a que le titulaire de la carte professionnelle qui peut éventuellement relayer les mandats et surveiller l'exécution des mandats, non pas par l'agent commercial qui n'a pas le droit de le faire, mais éventuellement par un notaire qui sera chargé d'établir les actes sous seing privé et les maniements de fonds.
Jean-Marie, juste une chose, ce que je voulais préciser, parce que je ne suis pas allé au bout du raisonnement, c'est que quand on prend cette jurisprudence à contrario, ça devrait signifier que, a priori, un agent commercial aujourd'hui n'a absolument pas le droit de négocier l'offre. Parce que dans l'offre, il va amener du conseil juridique.
Il ne peut pas.
Et voilà, c'est bien ce que je voulais amener. Donc, on est dans le même sens. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là...
Je plaisantais.
Tout est bien qui finit bien, mais voilà, rassuré.
On se connaît et au contraire, on aime débattre. Mais ce qui est intéressant dans cette jurisprudence-là, c'est que ça va limiter le champ de l'action potentielle d'un mandataire. Donc, ça veut dire que là, les têtes de réseau vont devoir se responsabiliser et de trouver soit des champs intermédiaires de management, mais de salariés, pas d'agents commerciaux, comme on le voit parfois, directeurs ou coachs qui ont 6 mois d'activité, puis d'un seul coup ils deviennent coachs et c'est eux qui décident. Donc il faut faire attention à ces paliers aussi qui sont importants. Et puis, donc ça veut bien dire que cette jurisprudence aujourd'hui peut être un vrai dommage. En revanche, attention, en droit commercial, on a aussi les us et coutumes. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça deviendra un usage que de laisser un agent commercial procéder par intermédiaire à des conseils ? Je ne sais pas. Mais tel qu'on lit cette jurisprudence, il y a un risque à terme. Il y a un risque, c'est qu'il n'ait pas le droit de négocier.
Donc, d'où la nécessité de l'ensemble des professionnels de l'immobilier, à travers donc les syndicats, renégocient et revoient la loi Auguet dans toutes les fonctions des collaborateurs des agences immobilières. Et ça, malheureusement, on la réclame depuis plusieurs années. Il y a certains décrets qui sont toujours pas parus, notamment le décret sur la formation initiale qu'on attend depuis Madame Duflo. Donc ça fait quand même 7 ans.
Jean-Marie, Jean-Yves, on l'avait discuté avec Soubi, tu te rappelles, en livre blanc.
Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. En tout cas, l'émission va se terminer parce qu'on n'a plus le temps, mais c'est très bien de rappeler le rôle très limité, hein, vous l'avez dit, maître, de l'agent commercial et de rappeler également que parfois il y a des dérives. C'est bon de le rappeler. Merci infiniment, messieurs, pour cette émission très intéressante. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de La CNASIM vous parle.
La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.